Je vais vous parler cet après-midi du sacrement de pénitence. Donc dans une retraite, ce n'est pas le plus important de la retraite, mais c'est quand même un élément important, un peu pénible à vivre. On est content quand on a passé par la confession, quand c'est passé. Mais donc pour vous aider à la fois à faire une bonne confession dans la retraite, mais également d'une façon ordinaire à porter un regard de foi sur ce sacrement, je voudrais vous donner donc quelques considérations donc, qui auront pour but de vous aider à la fois à bien vous confesser donc, pendant ces quelques jours-là, et puis ensuite après à faire de ce sacrement un bon moyen de sanctification. Donc, tout d'abord, nous ne devons pas nous étonner de voir qu'il y a en nous un fond mauvais, comme Mgr Lefebvre le disait à la retraite, donc dans la conférence qu'on entendait à midi, conférence spirituelle pendant le repas, parce que le péché originel a laissé en nous des séquelles, qu'on appelle le foyer du péché, le fomes peccati, et qui fait que donc nos différentes facultés sont toutes blessées. Notre intelligence par l'ignorance. Alors l'ignorance, ne veut pas dire qu'on ne sache pas les choses, mais l'ignorance veut dire surtout qu'on a tendance à les oublier. Tout en croyant en Dieu, tout en sachant qu'on doit donner à Dieu la première place dans notre vie, il n'est pas toujours facile de donner à Dieu la première place. On voudrait vivre en présence de Dieu, on sait qu'il est là, mais souvent on l'oublie. Et donc il y a cette blessure d'ignorance, et c'est lié en partie à cette blessure d'ignorance. À la blessure d'ignorance s'ajoute la blessure donc, de malice, qui ne veut pas dire qu'on soit tous malicieux, mais la blessure de malice ici, qui touche la volonté, veut dire qu'il y a comme une attirance vers le mal. Normalement, la volonté devrait être toujours portée vers le bien, et au lieu qu'elle soit portée vers le bien, elle a tendance à se laisser, parfois au moins, entraîner vers le mal. Et même l'homme est plus faible dans sa volonté que dans son intelligence, et donc ça, du point de vue de l'éducation, c'est très important de se le rappeler, pour que les éducateurs le sachent bien. Donc il ne suffit pas de dire le bien à faire, enfin ce qu'il faut faire pour que ce bien soit fait concrètement. Donc en cherchant à faire en sorte que les enfants fassent le bien, il ne suffit pas de leur dire le bien à faire, il faut ensuite stimuler aussi leur volonté par le bien à faire. Et on voit que le bon Dieu d'ailleurs qui nous connaît cherche non seulement à éclairer notre intelligence mais aussi cherche à stimuler notre volonté, ne serait-ce que par le paradis qu'il nous a promis, qui doit nous inciter à faire le bien, puis l'enfer éternel dont il nous a menacés, qui doit aussi nous aider à éviter le mal. Donc si le bon Dieu lui-même dans sa pédagogie nous a donné des récompenses extraordinaires et puis aussi nous a menacés d'un fléau épouvantable, c'est bien parce que il sait de quoi notre nature est faite, et donc nous-mêmes aussi, dans l'éducation des enfants, il faut se le rappeler. Donc il ne faut pas bien sûr forcément faire en sorte que les enfants n'agissent qu'à coups de carottes et de bâtons, mais c'est sûr qu'on a aussi besoin d'être encouragés à faire le bien. Et puis il faut aussi donc savoir user de menaces, comme le bon Dieu l'a fait, pour faire en sorte que les enfants soient toujours donc dociles. Et puis ensuite, notre sensibilité sera aussi atteinte par deux autres blessures. Par rapport au bien sensible, il y a cette blessure de concupiscence, cet attrait déréglé pour les plaisirs des sens. Et puis, par rapport au bien ardu, donc par rapport aux obstacles qu'on rencontre dans la vie, au lieu d'avoir toujours le courage de franchir les obstacles dans la vie sont faits pour être franchis, on a tendance à baisser les bras, au moins trop souvent. Et c'est la blessure de faiblesse. Donc, et ceci donc, se retrouve en chacun d'entre nous. Et toute notre vie, nous devrons donc avoir cette lucidité sur ces faiblesses pour arriver à les dominer. Donc, si nous avons besoin de nous confesser, c'est parce qu'il reste en nous, même après le baptême, cette tendance au péché. Une tendance qui, malheureusement, nous conduit au péché. Et ce qui doit ensuite nous faire désirer, nous rapprocher de notre Seigneur dans le sacrement de pénitence, c'est de croiser son regard miséricordieux. Quand on regarde, donc, quand on lit l'Évangile, quand on médite l'Évangile, quand on contemple la Passion, On voit la différence qu'il y a eu entre Judas et Saint-Pierre, qui ont tous les deux péché gravement, pas selon le même degré de gravité, mais tous les deux ont quand même péché gravement. Saint-Pierre en reniant son maître, Judas en le vendant pour 30 pièces d'argent. Eh bien, Judas a cru son péché trop grave pour être pardonné. Il a fini par se pendre. Et Judas a refusé de croiser le regard miséricordieux de notre Seigneur qui lui aurait pardonné. Tandis que Saint-Pierre, lui, juste après son péché, il a croisé le regard de notre Seigneur. Saint-Luc était médecin, et donc l'évangile de Saint-Luc, c'est l'évangile de la miséricorde. Et donc c'est l'évangile de Saint-Luc qui rapporte ce trait où Saint-Pierre donc croise le regard de notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui se retourne pour se tourner vers Saint-Pierre. Et donc notre Seigneur se retourne, regarde Saint-Pierre, et Pierre pleura amèrement. Donc à travers ce regard de notre Seigneur, en regardant notre Seigneur, il a tout compris. Il a compris à la fois la gravité de son péché, mais il a aussi compris que notre Seigneur allait le pardonner. Il a vu à travers ce regard de notre Seigneur toute sa miséricorde. Donc une grâce à demander, c'est d'essayer de voir notre vie à la lumière de Dieu et ensuite de croiser ce regard miséricordieux de notre Seigneur pour mieux comprendre à la fois la peine que nos péchés lui ont fait, parce que Saint-Pierre a bien compris la gravité de son péché. La preuve, c'est qu'il a pleuré amèrement, et on dit que jusqu'à la fin de sa vie, il a pleuré ce triple reniement. Mais en même temps aussi, aussitôt qu'il a regretté son péché, il a eu confiance dans la miséricorde de notre Seigneur. Et donc, il faut savoir qu'une des tactiques du démon, c'est de nous faire croire avant le péché que le péché n'est pas si grave que cela. C'est d'enrober en quelque sorte le péché sous un beau jour pour nous conduire au péché. Et ensuite, une fois que le péché est commis, sa tendance est absolument inverse. C'est de noircir encore davantage le tableau pour nous conduire dans le découragement et pour nous empêcher de retrouver l'amitié de Dieu. Donc, comme disent les auteurs spirituels, le démon a tendance à vouloir nous enlever aussi la honte au moment du péché, si bien qu'on commet le péché. Et par contre, après, il va nous redonner la honte au moment de la confession pour nous empêcher d'avouer le péché. Alors que c'est avant le péché qu'il faudrait avoir honte pour ne pas commettre le péché. Et puis ensuite, après, au moment de la confession, eh bien, le fait d'avouer son péché n'est pas du tout, ne doit pas être pour nous objet de honte, mais au contraire, est objet de vertu. Et donc, il faudrait essayer de surmonter donc ce sentiment. Alors, maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails, une bonne confession, notre expérience le montre, soulage, apaise, réconforte, nous rend plus généreux, plus ardent pour le bien et plus fort pour le mal. Alors que faut-il pour bénéficier de ces fruits? Tout d'abord, il faut se rappeler que la confession a été établie au départ pour les péchés graves. Au départ, la matière, première de la confession, ce sont les fautes graves. Parce que les fautes légères peuvent être remises d'autre manière que par la confession. Même si, comme je vais le dire, il est bon de se confesser régulièrement, quand bien même on n'aurait pas de fautes graves sur la conscience. Mais c'est donc d'abord pour les péchés graves que le sacrement de pénitence a été institué. Mais ce n'est pas donc uniquement pour les péchés graves que l'on doit utiliser ce sacrement. Et la preuve, c'est que des saints même se confessaient tous les jours. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire ni pratique. Si vous prenez la résolution de vous confesser tous les jours, je vais dire, pauvre prêtre, ce ne serait pas toujours très pratique et très facile. Mais c'est quand même vrai, déjà, qu'il est bon de se confesser d'une façon régulière. Alors, tout dépend de l'état de votre âme et puis après de la disponibilité aussi des prêtres. Mais, par exemple, tous les 15 jours, 3 semaines, je pense que c'est très bien. Parce que ce que l'on peut constater, c'est que quand on espace trop ces confessions, on reste beaucoup plus dans les généralités, dans nos confessions, et donc on se connaît moins bien. Une confession fréquente nous oblige à un examen de conscience plus régulier, et l'examen de conscience, donc, nous permet d'avancer. Donc, plus nos confessions sont espacées, plus nos consciences deviennent nébuleuses, vagues, imprécises. Et donc, manque de clarté et manque de fermeté, et manque aussi de docilité à la grâce. Alors que les confessions fréquentes vont nous aider à acquérir une conscience plus délicate. Je ne dis pas scrupuleuse, il ne faut surtout pas avoir une conscience scrupuleuse, mais une conscience délicate. Et si notre Seigneur nous demande, nous dit que, il est prêt, lui, à nous pardonner, donc, enfin, il nous demande de pardonner 70 fois 7 fois, c'est bien parce qu'il le fait lui-même. Donc Dieu n'est pas chiche dans ses dons. Par conséquent, ce n'est pas abuser de la bonté de Dieu que de recourir souvent au sacrement de pénitence. Ce qui serait un abus, ce serait d'y accéder, mais sans les dispositions voulues. Alors, au cours d'une retraite, en général, on conseille pour les personnes qui n'ont jamais fait de confession générale d'en faire une. Donc, et spécialement pour des personnes qui reviennent à la tradition, enfin qui n'ont pas ou qui n'ont pas eu de bonne formation religieuse, parce que, en général, après, quand on commence à mieux connaître, disons, son catéchisme, on discerne davantage, eh bien, la gravité de certaines fautes. Donc, c'est quand même bien de passer l'éponge et de pour arriver à repartir d'un bon pied. Et puis pour les autres personnes, il est bon en général, c'est ce qui est conseillé, c'est de faire une confession, donc depuis la dernière confession générale, pour aussi avancer. Ça permet de faire le point depuis la dernière retraite, par exemple, et c'est ce qui permet ensuite après de fixer des résolutions en rapport avec l'état de notre vie durant cette dernière année, par exemple, ou ces deux dernières années. Maintenant, après, si vous avez un doute parce que vous êtes scrupuleuse ou pour d'autres raisons, n'hésitez pas à demander à un prêtre ce que vous devez faire, ce qui vous semble plus adapté pour vous. Si vous avez des craintes par rapport à une confession générale ou si vous ne savez pas trop ce qu'il vaut mieux en faire ou pas, n'hésitez pas à en parler au prêtre. Alors, quels sont les effets du sacrement de pénitence pour nous aider à approcher de ce sacrement avec confiance? Il faut essayer d'en voir les effets. Les auteurs spirituels nous disent que c'est un arbre dont les racines sont amères, mais dont les fruits sont doux. Les racines sont amères parce que c'est humiliant de se confesser, c'est pas facile de se confesser, mais les fruits sont doux. Alors, quels sont ces fruits? Ces fruits d'une bonne confession. Bien, tout d'abord, il y a un effet curatif. Nous sommes rétablis dans la grâce de Dieu. Si nous avions eu le malheur de perdre la grâce de Dieu par le péché grave, le sacrement de pénitence nous rétablit dans l'amitié de Dieu. Et cela, quelle que soit la gravité du péché. Ce n'est pas la gravité du péché qui rend le sacrement impuissant. Tout péché, si grave soit-il, peut être remis. Jamais le bon Dieu ne refusera de pardonner si le pénitent est dans de bonnes dispositions. Donc ce qui peut rendre le péché irrémissible, ce n'est pas le bon Dieu, c'est uniquement nous-mêmes. C'est le manque de disposition du pécheur. C'est vrai que dans la Sainte Écriture, il est dit que certains péchés ne seront pas pardonnés ni dans ce monde ni dans l'autre. Il est fait mention des péchés contre le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le bon Dieu ne serait pas capable de les pardonner. C'est tout simplement le signe ici, dans ce passage de la Sainte Écriture, c'est que ces péchés sont le signe d'un endurcissement dans lequel certaines personnes se mettent et qui empêche l'action de la grâce. Mais c'est quand même important d'y réfléchir aussi. C'est vraiment une prière que nous devons faire tous les jours au bon Dieu, de ne jamais nous mettre dans un état d'aveuglement tel que nous en arrivions à ce péché contre le Saint-Esprit. Parce qu'on ne devient pas mauvais d'un seul coup, donc c'est la grande grâce à demander, en fait, c'est d'éviter la tiédeur, puisqu'on dit que la tiédeur est un commencement de réprobation, parce que l'état d'une âme tiède, c'est justement l'état d'une âme qui finit par ne plus saisir la gravité de son état. Et on peut constater que dans le monde d'aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de personnes, même des catholiques, qui vivent dans une certaine tiédeur, donc ils ont perdu la notion claire de ce qui est bien et de ce qui est mal, si bien qu'ils ont comme endormi leur conscience. Alors les prêtres ont aussi leur responsabilité, hein. Il y a aussi après, en fonction de la formation qu'ils ont reçue, eux-mêmes aussi, les personnes peuvent être plus ou moins coupables, donc le bon Dieu les jugera. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut arriver après à un certain stade de tiédeur qui fait qu'on n'arrive plus à discerner clairement ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, ce qui est grave de ce qui n'est pas grave, et on arrive petit à petit après à glisser petit à petit donc vers le péché mortel. Et donc, il peut y avoir une âme, je dirais, à peu près droite, hein, qui a un accident de parcours, donc tombe dans une faute grave. Mais cette âme-là, si elle est d'une façon ordinaire plutôt dans la ferveur, eh bien elle s'en rend compte aussitôt, elle s'en humilie, et cette chute va lui servir pour rebondir, pour être beaucoup plus vigilante, pour être beaucoup plus fervente, pour mieux rendre grâce au bon Dieu de l'état de sa miséricorde. Et donc ça va l'aider à avancer. Mais il y a une autre manière de tomber dans le péché grave, ce n'est pas une chute accidentelle, mais c'est le fruit d'un attiédissement progressif qui fait qu'on relativise les choses de plus en plus, et puis après on ne voit plus le mal, et après on finit par glisser insensiblement. Et c'est cela qui peut après conduire beaucoup plus loin, jusqu'au péché contre le Saint-Esprit. Mais quel que soit aujourd'hui l'état de notre âme, ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas dire « j'en ai trop fait, le bon Dieu ne pourra jamais me pardonner ce que j'ai fait dans ma vie ». C'est certain que cela ne peut pas être de Dieu. Un jour, on raconte ça dans la vie de, je crois que c'est Sainte Catherine de Sienne, qu'elle avait eu une apparition qui lui avait dit, peut-être Saint-Angèle de Foligno, je ne m'en rappelle plus, qui avait eu une tentation de ce genre. N'importe quoi, c'est pas la peine de faire tant de sacrifices, quoi que tu fasses, t'es foutu. Alors à ce moment-là, elle avait eu cette répartie, elle dit ben, si quoi que je fasse, je suis foutu, c'était pas la peine de te déplacer pour me le dire. Donc le sacrement de pénitence remet toujours la peine éternelle due à nos péchés, quelle que soit la gravité de nos péchés. Et ensuite, il remet également la peine temporelle due à nos péchés en fonction de notre ferveur. Donc chaque péché est un désordre. Ce désordre doit être réparé dans ce monde ou dans l'autre. Et donc un des intérêts du sacrement de pénitence, c'est de nous permettre d'effacer en partie la peine due au péché, donc de réduire la peine de purgatoire liée à nos péchés, aux péchés commis. Et d'ailleurs, quand le prêtre donne une pénitence, cette pénitence est souvent légère, courte et peu difficile par rapport à la gravité de nos péchés. Mais c'est très important de faire cette pénitence, puisque cette pénitence a pour but, entre autres, de nous remettre en grande partie la peine temporelle due à nos péchés. Donc, oublier cette pénitence, ou enfin, en tout cas ne pas faire par négligence cette pénitence, c'est rallonger la peine de l'autre côté. Il faut peut-être aussi y penser. Également, aussi, il est important de savoir que par une bonne confession, on peut retrouver un degré de grâce plus grand que celui qu'on avait avant d'être tombé dans le péché. C'est dans le sens un peu de ce que vous avez dit tout à l'heure pour une personne qui, par surprise, est tombée dans une faute grave. Cette faute conduit la personne à prendre davantage conscience de l'état de sa faiblesse et en même temps de la miséricorde du bon Dieu, et donc la conduit à aimer bien plus le bon Dieu. Ce fut le cas par exemple de Sainte Marie-Madeleine, en voyant l'étendue de la miséricorde de Dieu sur elle, elle a fait un bond incroyable vers la sainteté. Et c'est en ce sens aussi que Saint Paul dit que tout ce qui arrive coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, donc tout ce qui arrive sert au bien de ceux qui aiment le bon Dieu, et un auteur spirituel ajoute même le péché. Donc il faut apprendre à se servir même de ses fautes pour continuer à aller de l'avant, donc vers le bon Dieu. Et quand on reçoit le sacrement de pénitence alors qu'on est déjà en état de grâce, eh bien ce sacrement va augmenter en nous la grâce, donc va augmenter en nous l'union à Dieu. Mais cela dépendra de notre degré de repentir, de notre contrition, de notre désir d'amendement, bien sûr. Alors, la confession a donc un effet curatif, mais a aussi un effet préventif. Et c'est pour ça que le fait de se confesser fréquemment est une aide pour ne pas tomber plus gravement dans le péché. Donc une bonne confession nous détache du péché et donc nous aide par là même à ne plus y retomber. Et puis encore un autre effet du sacrement, c'est que ce sacrement nous pousse à l'humilité. Que finalement, si on réfléchit bien, si on se dit quel est le principal obstacle à la confession et à une bonne confession, eh bien c'est finalement l'orgueil, c'est clair. On voit bien que malheureusement, chacun d'entre nous, hein, il y a un fond d'orgueil, donc un amour déréglé de nous-mêmes, et qui fait que c'est dur d'avouer ses faiblesses. Ouais. On préfère, eh bien, se montrer sous son beau côté que de montrer ses faiblesses. Ouais. Et donc ce sacrement nous pousse à l'humilité par l'humiliation qu'entraîne une confession. Donc si on est capable d'accepter les humiliations d'une confession, c'est le signe que la vertu d'humilité est présente en nous. Et là-dessus, il faut surtout pas rentrer dans le jeu du démon qui lui va encore donc noircir, comme je vous disais tout à l'heure, le tableau pour essayer de nous empêcher de faire de bonnes confessions. Et le sacrement de pénitence a aussi pour effet de nous aider à pratiquer la vertu de pénitence. Monsieur Lefebvre aussi en parlait, donc à midi, de cette vertu de pénitence. La vertu de pénitence, c'est la vertu propre du pécheur. Le pécheur a offensé le bon Dieu, il doit réparer. Et comment réparer? Eh bien, spécialement en acceptant la part de croix que le bon Dieu nous donne pour nous sauver. Et il me semble aussi, voyez, que si nous avions davantage conscience de la gravité du péché, même véniel, nous aurions plus de générosité pour accepter les épreuves de la vie. Parce qu'en voyant la peine que nos péchés ont pu faire à Dieu, on comprendrait mieux la nécessité de réparer. Et donc cela nous donnerait plus de courage pour accepter les épreuves de la vie. Donc le sacrement de pénitence va nous inciter à pratiquer la vertu de pénitence, notamment en nous donnant une plus grande générosité pour accepter les épreuves de la vie, pour accepter les contrariétés de la vie. Donc dès qu'on réalise nos manques d'amour du bon Dieu et la peine que cela peut produire en lui, cela nous donne le désir de compenser ces manques par une plus grande générosité et une plus grande fidélité aussi à nos devoirs. Et puis d'une manière générale, on peut dire que la confession fréquente va entretenir en nous, là encore ce que disait Mgr Lefebvre à midi, l'esprit de componction. Donc cette componction qui est cette contrition habituelle. Contrition habituelle, donc, qui n'est pas le fait de ressasser continuellement ses péchés. Ce n'est surtout pas ça qu'il faut faire. Les personnes s'examinent de trop. Et ce n'est pas ce que le bon Dieu veut. Les auteurs spirituels le disent, par exemple, dans le livre Les Portes du Silence, que les examens sur nous-mêmes doivent être brefs. Quelques minutes le matin et le soir, mais pas, il ne faut pas continuellement revenir sur soi. Les retours qui rendent l'âme paisible sont les retours sur Dieu et non les retours sur soi. Donc il ne faut pas apprendre à se regarder du matin au soir. Mais l'esprit de componction, ce n'est pas cela. L'esprit de componction, c'est donc une âme qui, spécialement en ayant médité la Passion, ce que disait aussi Monseigneur en s'appuyant, je crois, sur Don Marmion, en méditant la Passion, en voyant les souffrances de notre Seigneur, eh bien, on réalise que nous-mêmes, nous avons eu une part de responsabilité dans ces souffrances de notre Seigneur. Et cela nous conduit à avoir d'une façon ordinaire, habituelle, un regret. Un regret, donc, habituel. Et c'est cela, la componction. Et cette componction va nous aider beaucoup à éviter le péché. Donc ce sera, il y a aussi un moyen, c'est un moyen préventif pour donc éviter de retomber dans le péché. Et ça va nous donner aussi une certaine défiance de nous-mêmes, et donc ça va nous donner une plus grande prudence pour éviter de nous mettre dans des occasions dangereuses de péché. Et puis les derniers fruits, alors, d'une bonne confession, c'est la paix de l'âme et la joie intérieure. Alors ça dépend bien sûr aussi des circonstances de la confession, mais en général, après une bonne confession, bien, on se sent plus paisible. Et surtout après une première confession générale, il y a une joie de l'âme qui est présente. Et à laquelle participe d'ailleurs aussi le prêtre. Le bon Dieu donne cette joie au prêtre lorsqu'il voit une âme qui revient vers lui, surtout quand elle en avait vraiment besoin. Donc, après avoir vu les effets du sacrement de pénitence, quels sont les actes du pénitent? Donc, dans tout sacrement, il y a la matière du sacrement, il y a la forme du sacrement. Donc, la matière du sacrement, ce sont les actes du pénitent. La forme, c'est la formule d'absolution. Donc, c'est le prêtre qui dit: « Je vous absous de tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, pour qu'il y ait sacrement, il faut qu'il y ait la matière, il faut qu'il y ait la forme. La matière, ce sont les péchés. Et il faut qu'il y ait normalement accusation des péchés pour que le sacrement soit valable. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas attendre, quand c'est possible, qu'une personne soit dans le coma pour faire venir le prêtre. Parce que quand la personne est dans le coma, si c'est une personne qui a mené plutôt une vie, surtout si c'est une vie douteuse, vous voyez. Eh bien, c'est assez difficile pour le prêtre. Il ne peut pas confesser la personne. Bon, il peut toujours essayer de la confesser en espérant que la personne comprenne, sans savoir si elle comprend ou si elle ne comprend pas. Donc, il lui donnera une absolution sous condition, mais rien ne vaut une absolution, donc enfin un aveu clair du péché. C'est ce qui permet d'avoir la garantie que la personne a bien reçu le pardon de Dieu. Maintenant, c'est beau aussi de voir que un exemple de ministère. Une demoiselle d'un âge certain était gravement malade et sa sœur avait demandé à l'aumônier de l'hôpital de lui porter les derniers sacrements. Elle était dans le coma. Et le prêtre a dit, puisqu'elle est dans le coma, je ne vois pas l'intérêt de lui donner les derniers sacrements, parce qu'elle ne comprendra rien, donc ça ne sert à rien. Alors du coup, sa sœur, devant le refus de l'aumônier de l'hôpital, téléphone au prieuré, donc j'étais à Lyon à l'époque, et puis j'ai demandé à un de mes confrères de se rendre au chevet de cette malade. Et bien au moment où il est arrivé dans la chambre, elle a retrouvé conscience, si bien qu'elle a pu donc se confesser et recevoir les sacrements dans les meilleures dispositions. Et puis un autre cas, j'étais tout jeune prêtre, donc très peu d'expérience. Et je vais voir une personne gravement malade, qui n'est pas la tradition, et qui était aussi dans le coma. Et il y avait des personnes de la famille qui étaient autour du malade. Alors j'ai posé quelques questions aux personnes de la famille. Est-ce qu'il en a pour longtemps? Qu'est-ce qu'il a? Etc. Bon. Je donne l'absolution donc sous condition. Je donne ensuite l'extrême-onction, ce que l'on fait dans ces cas-là. Et une chose qui m'étonne, c'est que au moment de l'extrême-onction, il a un peu bougé la tête. Alors pour quelqu'un qui est dans le coma, déjà bouger un peu la tête, ça faisait un petit quelque chose quand même. Au moment des mains, donc il ouvre les mains. Donc je prends ses mains, il ouvre les mains. Et une fois que j'ai terminé l'extrême-onction, il se redresse sur son lit, il me dit merci, merci, et puis pouf, il repart donc dans son coma. Alors les gens de la famille, après, il est mort très peu de temps après. Et les gens de la famille, c'était une famille du Nord, ont dit nous avons réussi à savoir qui vous étiez, donc savoir que c'est donc près de la tradition, mais nous vous remercions, nous sommes très heureux de ce que vous avez pu faire pour notre papa ou nos mamans, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était un papa, le papa. Et puis, donc avec un petit chèque après, avec, pour remercier. Mais ça, c'était pour vous dire les surprises des personnes qui sont dans le coma et dont on ne sait pas toujours. Donc maintenant, j'ai compris, à partir de cet exemple-là, quand j'ai quelque chose à dire à la famille, je fais sortir la personne pour éviter dans la pièce que le malade n'entende lorsque j'ai des choses à dire qu'il vaudrait mieux qu'il n'entende pas. Revenons à la confession. Donc dans les actes du pénitent, il y a trois actes principaux du pénitent. Le premier, c'est la contrition. Ensuite, il y a l'aveu des péchés. Et puis après, donc, il y aura la pénitence. Mais il faut se dire que le plus important, vous voyez, dans la confession, c'est la contrition. Alors que pour nous, souvent, on pense que le plus important, c'est de ne rien oublier. C'est donc à faire une liste et surtout qu'elle soit exhaustive. Il faut surtout que je n'oublie rien. Et si on a l'impression d'avoir oublié quelque chose, eh bien, alors du coup, on se sent mal. Alors, il faut se dire que ce n'est pas le plus important. Bien sûr qu'il faut éviter de cacher gravement une faute. Bien sûr, c'est une faute grave. Enfin, de cacher volontairement une faute grave. Mais le plus important, c'est la contrition. Alors maintenant, et surtout pour les péchés mortels, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que la contrition? Eh bien, la contrition, c'est une douleur de l'âme. Donc, ce n'est pas forcément une douleur sensible, c'est une douleur de l'âme. Et une détestation du péché commis et un ferme propos de ne plus y retomber. Donc, la contrition, vous voyez, ce n'est pas d'abord un déplaisir par rapport à soi. La contrition surnaturelle, c'est un déplaisir par rapport à Dieu. Si vous regardez Judas, eh bien Judas, il a regretté son péché. Hein. Il a regretté, il est même allé retourner voir les princes des prêtres en disant « J'ai vendu le sang du juste ». Il a même rendu l'argent, donc il regrettait. Mais c'était uniquement par rapport à lui. C'était pas par rapport à Dieu. Donc la contrition, ça doit être... Il y a un déplaisir, bien sûr, une honte qui est présente dans le péché, quand on a conscience du péché, mais qui n'est pas forcément toujours suffisante pour être vraiment surnaturel. Il faut que cette contrition, il faut donc travailler cela, donc dans notre esprit, de faire en sorte que ce déplaisir que nous avons par rapport au péché commis, eh bien, que ce soit par rapport à Dieu et non pas uniquement par rapport à nous. Qu'un pécheur commette des péchés, il n'y a rien d'étonnant à cela. Mais souvent, c'est ce qui nous chagrine le plus. Et parfois, on se dit même, qu'est-ce que le confesseur va penser si je lui dis ci, si je dis ça? Et alors, c'est sûr que c'est ça qui va nous fermer un peu la bouche, voyez. Parce que l'ennemi de la contrition, là encore, c'est l'orgueil. Donc, il faut éprouver la douleur pour les péchés commis, mais ne pas s'en étonner, ni s'en inquiéter, ni s'en dépiter. Donc, la contrition ne consiste pas seulement à arrêter de pécher, ni même à prendre la résolution de mener désormais une vie nouvelle. Il faut qu'il y ait vraiment une détestation du péché commis et une volonté d'expier ce mal. Et on va justement expier le mal en premier lieu en l'accusant. Mais cette détestation, il faut bien le comprendre, est un vouloir. C'est donc dans la volonté qu'elle se situe. Donc il ne faut pas juger la qualité de la contrition en fonction de ce que nous ressentons. Donc ça c'est très important. Il ne faut pas juger non plus de la qualité de notre contrition en fonction de la persévérance d'un certain nombre d'attraits sensibles pour le mal. Donc je prends un exemple, un pénitent qui vient de s'accuser d'avoir été gourmand, alors il essaie d'être bien contrit, de détester son péché, mais enfin il est bien obligé d'avouer qu'il continue d'avoir une certaine attirance pour les choses qui sont bonnes. Donc c'est vrai, mais cette attirance sensible n'est pas forcément opposée à la volonté de détester le péché commis, le mal commis. Donc il y a une différence entre ce qu'on éprouve dans la sensibilité et ce que l'on veut. Et c'est ça que c'est très important de le comprendre. Parce qu'on est des esprits incarnés, donc on ne peut pas empêcher notre corps, si vous voulez, de ressentir certaines choses. Et le fait que notre corps ressente certaines choses, ben, c'est notre nature. Mais ce que nous sentons par le corps prend souvent pour nous plus d'importance que ce que nous ressentons par l'âme. Alors ici, de notre côté, il faut se rappeler que sentir n'est pas consentir. Le péché dans la volonté et la vertu dans la volonté. Est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je veux? Donc il faut apprendre à vouloir le bien, coûte que coûte, à vouloir regretter les péchés parce qu'on sait que ça fait de la peine à notre Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut donc avoir cette contrition. Alors maintenant, pour bien juger la qualité d'une contrition, eh bien, on va juger la qualité d'une contrition essentiellement par les actes. Donc, est-ce que je suis prêt à expier? Est-ce que je suis prêt à réparer? Est-ce que je suis prêt à éviter les occasions? Vous voyez? Et donc, ça, c'est des bons critères. Par exemple, une personne qui est gourmande, qui tous les jours passe devant une pâtisserie et s'arrête pour acheter trois gâteaux, trois ou quatre, eh bien, ce qui va montrer qu'elle aura vraiment une volonté de se corriger, c'est que, à partir de sa confession, elle décide de changer d'itinéraire. Parce que si elle continue de passer devant, c'est « je m'arrête pas ».« Aujourd'hui, qu'est-ce que ça sent bon ?»« Oh, je vais juste m'arrêter, mais... »« Oh, juste un gâteau !»« Ah, mais ce deuxième, j'aurais bien à le prendre aussi. » Alors là, bien sûr, après, on est foutu, vous voyez. Donc, la contrition, c'est la douleur à l'égard du péché déjà commis. Et cette douleur inclut le ferme propos, c'est donc la résolution ferme de tout faire pour ne plus retomber. Et c'est ce qu'on dit dans l'acte de contrition. J'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Je prends la ferme résolution. Maintenant, décider de ne plus retomber ne veut pas dire qu'on ne retombera pas, mais de faire son possible pour ne plus retomber. Et en particulier, donc la nécessité pour nous de fuir les occasions prochaines de péché. Donc, comme la télévision, la rencontre de telle personne, Internet pour certaines personnes. Alors parfois, quand on confesse les personnes, bien sûr que les prêtres doivent être toujours très discrets sur les confessions, mais cette histoire, on peut quand même la raconter, on est parfois un peu surpris. Ainsi, cet enfant se confessant et disant au prêtre, au milieu de sa confession, donc « j'ai menti, j'ai désobéi, j'ai parfois été distrait dans mes prières, et j'ai tué ma mère trois fois. » Comment ? Tu pourrais répéter là ce que tu viens de dire ? Oui, j'ai tué ma mère trois fois. Bon. Après cherchant à savoir un petit peu plus, bien sûr qu'il a compris que la mère, étant très agacée, avait dit « Arrête, tu me tues !»« Ah, j'ai tué ma mère une fois. »« Ah, mais tu me tues !»« Oh, j'ai dû tuer deux fois. » Donc là, il avait tué trois fois depuis la dernière confession. Alors ensuite, pour revenir à la contrition, il y a deux types de contrition. Une contrition qu'on appelle imparfaite, c'est la crainte du châtiment. Donc c'est la pensée de l'enfer qui ramène des personnes dans le droit chemin. C'est le se dire, si je meurs en état de péché mortel, je suis foutu, et donc, eh bien, je reviens vers Dieu. Donc c'est sûr que ce n'est pas la pensée la plus noble pour revenir vers Dieu, mais c'est suffisant pour recevoir l'absolution de ses péchés. Et sainte Thérèse d'Avila elle-même dit que la vision de l'enfer, elle a estimé que c'était une des plus grandes grâces de sa vie, et c'est ce qui l'a aidé à entretenir en elle, ensuite après, un plus grand zèle pour la vertu. Et les enfants de Fatima également, on voit bien que la vision de l'enfer les a aidés aussi à avoir un esprit de sacrifice extraordinaire, pour non pas pour eux, parce qu'ils savaient qu'ils iraient au ciel, mais pour éviter que les pécheurs ne tombent en enfer. Et la contrition parfaite, par contre, c'est la tristesse que l'on a, que l'on éprouve à l'idée qu'on a offensé le bon Dieu. Alors pour comprendre la différence entre ces deux contritions, vous prenez une personne qui est en voiture, donc vous êtes en voiture, et puis vous tuez, vous renversez une personne sur la route, vous la tuez, et vous êtes vraiment responsable. Donc la différence qu'il y aurait entre la contrition parfaite et la contrition imparfaite, si la seule douleur que vous avez, c'est de vous retrouver en prison parce que vous avez tué quelqu'un, c'est l'image de la contrition imparfaite. Parce que c'est la peine par rapport à vous, ce que vous devrez endurer. Mais vous ne voyez pas que le plus grave, c'est pas pour vous d'aller en prison, le plus grave, c'est d'avoir tué une personne. Et l'image de la contrition parfaite, eh bien, c'est justement la pensée d'avoir tué un innocent. Et c'est ça, bien sûr, l'image de la contrition parfaite. Et en prenant cette comparaison, il faut se dire que cette image-là reflète bien, finalement, la réalité, puisque par le péché grave, en tout cas, on peut dire qu'on a fait souffrir et même mourir notre Seigneur, vous voyez, qui était l'innocence même. Et donc c'est ce qui doit nous faire souffrir le plus que d'avoir pu mériter l'enfer par nos péchés. Vous voyez. Alors quels sont les effets de la contrition parfaite? Et la contrition parfaite suffit pour retrouver l'état de grâce avant même la confession. Et ça, c'est aussi important de le savoir pour le cas où, pris dans une situation telle que vous vous retrouvez entre la vie et la mort et il n'y a pas de prêtre pour vous confesser, mais il faut essayer, et vous savez que vous êtes en état de péché mortel, donc il faut essayer de susciter en vous un acte de contrition parfaite pour mourir en état de grâce. Oui. Mais la contrition parfaite inclut nécessairement le fait de vouloir se confesser dès que ce sera possible. Mais la contrition parfaite donc remet déjà la faute. Donc l'exemple qu'on peut prendre, c'est l'exemple du curé d'Ars, dont une femme était très inquiète pour le salut de son mari qui s'était jeté dans le Rhône. Et le curé d'Ars l'avait rassuré en disant qu'entre le pont et l'eau, il n'y avait pas beaucoup de temps, hein. Mais donc il avait fait un acte de contrition. Alors je ne dis pas que c'est l'acte de contrition en entier qu'il a récité, mais il a eu une grâce particulière qui lui a permis de regretter son péché au moment même de l'acte du péché. Et donc il a été sauvé. Mais donc l'acte de contrition parfaite, donc la contrition parfaite remet tout de suite nos fautes. Et donc même indépendamment de la mort, bien sûr, qu'une personne qui a commis une faute grave, la première chose qu'il faut qu'elle fasse, c'est essayer de se confesser le plus vite possible, et même avant même la confession, c'est de susciter en elle un acte de contrition parfaite pour retrouver tout de suite la grâce du bon Dieu. Mais donc la contrition parfaite, encore une fois, ne dispense pas de la confession, mais remet déjà la peine. Donc ça vous montre l'importance de la contrition. Et ensuite, le deuxième acte du pénitent, c'est l'aveu des fautes. Donc, pour recevoir le pardon de ses péchés, il ne suffit pas de regretter ses péchés, il faut les confesser. Donc là, notre Seigneur a été très clair là-dessus. Il dit « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Donc, notre Seigneur a voulu que les prêtres puissent donc retenir les péchés ou les remettre. Mais pour les remettre ou les retenir, il faut les connaître. On parle du tribunal de la pénitence. Le prêtre, donc en confession, il est médecin, mais il est aussi juge. Et pour juger une cause, il faut la connaître. Oui. Alors, pourquoi le bon Dieu a-t-il imposé cette loi de confesser ses péchés à un prêtre? Il y a plusieurs motifs. Le motif principal, certainement, c'est que c'est l'orgueil qui est à la racine de tout péché. Et donc, pour réparer l'orgueil présent dans tout péché, le bon Dieu nous demande l'humilité d'avouer nos péchés. Ensuite, deuxième motif, certainement aussi de notre Seigneur en inventant le sacrement de pénitence, c'est de nous inciter à moins pécher, parce que le fait de savoir qu'on devra ensuite accuser son péché en confession peut nous inciter, même si ce n'est pas le motif le plus noble, à éviter aussi le péché. Ouais. Donc ça, c'est un autre motif. Et puis ensuite aussi, un autre motif certainement de notre Seigneur, c'est qu'en nous donnant cette possibilité de nous confesser régulièrement, c'est qu'il nous permet de revenir régulièrement sur nous-mêmes pour arriver à mieux nous connaître. Oui. Et donc les confessions nous aident aussi à cela. Donc voilà quelques motifs pour lesquels notre Seigneur donc, nous a imposé cette loi qui est donc pénible à la nature, mais qui est profitable pour nos âmes. Et puis enfin, on pourrait dire que le péché étant une offense qui blesse notre Seigneur, il est nécessaire de se tourner vers notre Seigneur pour recevoir son pardon. Or, dans le sacrement de pénitence, on s'adresse à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur qui nous pardonne. Lorsque le prêtre dit « Je vous pardonne vos péchés », c'est notre Seigneur qui agit à travers lui. Le prêtre que vous voyez n'est qu'un instrument. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que quand on veut se confesser, il faut toujours voir à travers le prêtre notre Seigneur lui-même. Et c'est ce qui aide à surmonter l'appréhension que l'on peut avoir de s'adresser à un homme. Le prêtre n'est que le téléphone, mais c'est au bon Dieu qu'on parle. Et le bon Dieu nous répond à travers le prêtre. C'est ainsi que sainte Catherine de Sienne disait quand elle allait se confesser, « Je vais au sang de Jésus ». Donc c'est le sang de notre Seigneur qui purifie nos âmes dans le sacrement de pénitence. Alors, pour avoir dominé l'appréhension que l'on peut avoir par rapport à la confession et ne pas nous laisser enchaîner par le démon muet, il peut être aussi intéressant de méditer sur ces réflexions de Saint Claude de la Colombière. Il disait ceci: « Je ne m'étonne pas tant de ceux qui craignent la confession pour ne vouloir se corriger de leur péché. » C'est-à-dire, bien sûr, celui qui ne veut pas se corriger de ses péchés, on comprend qu'il ne veut pas se confesser parce qu'il n'a pas envie de changer. Donc, je ne m'étonne pas tant de ceux qui craignent la confession pour ne vouloir se corriger de leurs péchés que de ceux qui l'appréhendent par la crainte de les découvrir. Preuve que c'est une tentation, c'est qu'on voit cette appréhension dans des gens qui ne sont nullement connus du confesseur et qui n'en doivent jamais être connus. Qu'apprend ce confesseur par cette confession, si ce n'est qu'il y a une personne dans la ville qui a fait un péché ? Vous ne faites pas plus de tort que si vous le disiez à une statue. Et après, il rajoute, plus le confesseur vous connaît, plus il vous estime, plus il y a de la peine, plus il doit estimer la confiance que vous avez en lui et vous savoir gré de ce que vous l'avez choisi pour lui confier la chose au monde qu'il vous est plus important de tenir cachée. Plus le péché est grave, plus le confesseur vous connaît, plus il y a de mérite et par conséquent, plus le confesseur doit vous estimer s'il est raisonnable, s'il a des sentiments conformes à ceux de Dieu et des anges qui voient votre humilité avec admiration, avec joie. Quelle extravagance au confesseur s'il vous condamne dans son cœur lorsque Dieu vous absout et vous comble de ses grâces. S'il n'est pas chrétien, s'il est fou, il aura ses sentiments. Mais s'il est raisonnable, s'il a la foi, il vous admirera, il louera Dieu, il pleurera de joie, il se confondra lui-même. Peut-être n'avez-vous rien fait de si héroïque dans votre vie que cet aveu de votre péché. Et vous craignez que cela ne vous décrit dans l'esprit d'un homme qui a sujet de s'humilier lui-même en voyant une si grande vertu que loue Dieu effectivement, qui admire la force de sa grâce, qui bénit son aimable providence, qui permet des chutes dans ses élus pour leur donner l'occasion de s'élever à des vertus non communes, qui pleurent de joie et de consolation, tandis que vous rougissez de honte. Mais oubliez tout cela si vous craignez Dieu. Si vous l'aimez, profitez de votre répugnance. Le maître des sentences dit qu'on ne parlera point au jugement dernier des péchés dont on aura fait pénitence. Donc vous avez le choix, soit de confesser vos péchés à un prêtre, ou soit que vos péchés soient connus du monde entier au moment du jugement dernier. Entre les deux, je pense que... finalement, je choisis la confession. L'examen de conscience. Pour connaître ses péchés, il est nécessaire de faire un bon examen de conscience. Alors, c'est vrai qu'on a toujours les mêmes points faibles. C'est donc pas étonnant que d'une confession à l'autre, on dise un peu toujours la même chose. Mais malgré tout, si on arrive à mieux repérer les causes de nos faiblesses, on pourra plus facilement y porter remède. Notre regret sera plus profond et le moyen d'arriver à le combattre plus facile à discerner. Donc pour les péchés, on regarde les péchés par rapport à Dieu, par rapport au prochain et par rapport à nous-mêmes. C'est une manière de faire son examen de conscience. Et puis on peut aussi regarder les efforts par rapport aux défauts dominants. Alors à mon avis, je pense qu'il est bon de s'arrêter surtout, quand on fait son examen de conscience, à ce qui est plus volontaire, parce que dans ce qu'on a pu commettre, parce que c'est ce qui fait le plus de peine au bon Dieu, et à ce qui revient le plus souvent, parce que c'est ce qui nous montre un peu donc l'état de notre âme. Voyez. Donc c'est surtout les aspects les plus importants dans une confession. Ce qui est plus volontaire, parce que c'est ce qui fait qui est plus objectivement plus péché, donc plus grave, et puis également ce qui revient plus souvent parce que ça montre bien donc nos points faibles. Maintenant aussi, suivant les circonstances, il se pourra que certains jours vous ne voyez rien de particulier, donc c'est pas la peine d'inventer, c'est pas... Si vous êtes seul chez vous, que vous n'avez pas eu d'occasion de faire quoi que ce soit de mal, c'est pas la peine de vous torturer l'esprit, vous voyez. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ne pas s'examiner, bien sûr, du matin au soir, c'est pas non plus le but. Alors ensuite, quant à l'aveu du péché, si on veut donc progresser, je pense qu'il y a certains moyens à connaître. Et souvent, je dis que à confession passe-partout, conseil passe-partout. Donc, si votre confession est une confession qui est vague, les conseils qui vous seront donnés seront vagues. Si votre confession est précise, les conseils qui vous seront donnés seront précis. Ouais. Parce que, bien sûr, qu'on n'est pas tous des curés d'Ars. Donc, les curés d'Ars pouvaient lire dans les cœurs. Donc, ils arrivaient tout de suite à voir ce qu'on n'avait pas dit, ou de ce qu'on n'a pas dit, mais qu'on aurait voulu dire, mais qu'on n'a pas réussi à bien dire. Et donc, c'était plus facile, voyez. Mais on n'est pas tous des curés d'Ars. Donc, par conséquent, si votre confession, elle cherche au moins autant que possible qu'elle est claire, eh bien, le prêtre pourra vous donner des conseils adaptés. Voyez. Prenez la comparaison par rapport à la maladie. Voyez. Vous allez voir un médecin. Si vous avez mal, alors, est-ce que vous avez mal quelque part? Oui, mais alors, si c'est vague, c'est plutôt par là. Alors, parfois, on ne peut pas forcément plus toujours bien exprimer, quoi. Mais si c'est tellement vague, ben le pauvre médecin, il aura beaucoup de mal à discerner la cause. Voyez. Eh bien, sachez que pour la maladie de l'âme, c'est à peu près pareil. Voyez. Et puis, le but n'est pas non plus de brouiller les cartes pour faire en sorte que le prêtre ne comprenne rien, quoi. Ouf, il n'a rien compris. Ah, je me sens déjà mieux. Ensuite, donc pour les fautes qui seraient plus graves, donc c'est surtout se rappeler que pour qu'il y ait faute grave, il faut qu'il y ait matière grave, qu'il y ait pleine connaissance et qu'il y ait plein consentement. Donc matière grave, donc c'est grave. Pleine connaissance, donc ça veut dire par exemple réveillé. Si on est à demi endormi, eh bien il n'y a pas pleine connaissance. Et puis plein consentement, donc si c'est sous l'effet de la violence, bon c'est aussi différent. Et donc pour la matière grave, par exemple, voler 10 euros, ce n'est pas bien, mais c'est matière légère. Voler 1000 euros, c'est matière grave. Donc, et après aussi, donc les circonstances doivent être accusées, mais dans la mesure simplement où elles changent la nature du péché. Par exemple, voler l'argent, bon, c'est une chose, mais ensuite, si vous volez dans une église, eh bien, en plus, il y a un sacrilège. Oui. Donc, ça peut changer en ce moment-là la nature. Mais vous n'êtes pas obligé de donner les circonstances de tous les péchés que vous. Ensuite aussi, il faut accuser ses propres péchés et non ceux de son époux, de ses enfants. Également, il faut s'accuser et non pas s'excuser. C'est bien sûr qu'on peut y avoir des causes atténuantes, mais. Alors, ça fait penser encore à une autre histoire d'un enfant qui, se confessant, donc il dit toute sa confession, très bien, et après il regarde vers le prêtre, il lui dit: Et toi? Ben moi je me confesse aussi, mais pas toi. Pour qu'il y ait matière à confession, il faut qu'il y ait au moins accusation d'un péché. Donc si en confession vous venez dire je viens me confesser parce qu'on m'a dit que c'est important de se confesser souvent, mais moi tout va bien, hein. Ah bah très bien, alors je vous donne ma bénédiction. On peut donner une bénédiction, mais pas l'absolution, quoi. Ou si la seule chose que vous avez à dire, c'est que vous avez manqué la messe le dimanche précédent parce que vous avez 42 fièvres, ben, ce sera à peu près pareil. Oui. Donc là, il n'y a pas de péché, puisque vous ne pouvez pas assister à la messe, vous étiez gravement malade. Donc, y a pas. Alors si on ne s'accuse que d'imperfection, ce qui pourra se produire dans des cas particuliers, donc il faut terminer en ce moment-là sa confession par l'aveu au moins d'un péché ou de deux péchés de sa vie passée qui ont déjà été pardonnés. Par exemple, je demande pardon pour les péchés commis contre telle vertu, oui, de justice, de religion, de pureté ou autre. Alors, par rapport aux péchés contre lesquels on voudrait spécialement s'amender ou lutter, si on voit bien que c'est par exemple un péché dominant, c'est bien d'essayer de découvrir davantage la cause du péché pour trouver le bon remède. Par exemple, vous avez une tendance au mensonge, vous voyez. Mais il y a un psaume qui dit que tout homme est menteur, d'une certaine manière. Mais ensuite, après, si dans la confession vous dites: j'ai menti à une amie malade qui comptait sur ma visite parce que ça m'ennuyait d'aller la voir, eh bien là, on voit bien que la cause du mensonge, c'est la paresse. Voyez. Si vous dites: j'ai menti dans une conversation en m'attribuant des relations que je n'avais pas, eh bien là, la cause du mensonge, c'est la vanité. Voyez. Si vous dites: j'ai menti à mon patron en disant que j'étais malade parce que je ne voulais pas aller au travail, ben c'est de nouveau la paresse. Voyez. Si vous dites: j'ai menti lorsque j'ai vendu ma voiture parce qu'en fait, j'ai trompé le client sur le nombre de kilomètres, eh bien là, en ce moment-là, il y a un vol en plus. Voyez. Donc, vous voyez bien que dans tous les cas, vous pouvez très bien dire: j'ai menti. Voilà. Mais il y a une très grande différence entre ces différentes formes de mensonges. Voyez. Ou également, manquer à la charité, donc c'est le péché le plus courant, mais là aussi, ça veut tout dire et d'un côté, ça veut rien dire. Voyez. Par exemple, si vous dites: j'ai dit une parole blessante à quelqu'un que j'aime pas avec l'intention de lui faire de la peine, donc là, il y a la volonté de blesser. Voyez. ou c'est j'ai témoigné du mépris à une personne peu intelligente, ben là c'est plutôt l'orgueil. Ou j'ai refusé un secours que j'aurais pu donner à une personne amie dans le besoin, ben là c'est de l'égoïsme. Ou je me suis moqué d'un infirme, alors là c'est la moquerie. Donc vous pouvez très bien enrober tout ça en disant j'ai manqué de charité. Mais pour arriver à... Je ne dis pas que tous les péchés, on doit les détailler comme cela, mais si vous voulez lutter spécialement contre votre défaut dominant, et si vous voulez donc vraiment progresser, je pense que c'est bien, au moins pour un type de péché donné, d'arriver à donner certaines circonstances qui vous aideront vous-même à mieux vous connaître et qui aideront le confesseur à vous donner des conseils adaptés. Par exemple, quelqu'un qui est paresseux, on peut être paresseux en ne sachant pas se coucher. Je ne me suis pas trompé. On peut être paresseux en ne sachant pas se coucher. On peut être paresseux en ne sachant pas se lever. On peut être paresseux en n'allant pas jusqu'au bout du travail que l'on fait. On peut être paresseux en ne sachant pas se mettre au travail. Mais c'est différentes circonstances. Alors parfois, on peut être aussi paresseux dans tous ces domaines en même temps. Après, c'est possible. Mais pour certaines personnes, on voit bien que le problème, c'est qu'on a du mal à aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend. Pour d'autres personnes, c'est qu'on n'arrive pas à se lever à l'heure. Pour d'autres personnes, on n'arrive pas à se coucher à l'heure. Et donc, en mettant l'accent, si on se confesse à chaque fois j'étais paresseux, ben, le prêtre vous donnera des conseils peut-être pour être un peu plus courageuse. Mais en général, vous voyez. Tandis que si c'est la question de l'heure du coucher et de l'heure du lever, la seule résolution à prendre qui vous aidera à progresser, c'est de vous coucher à telle heure. Et ça vous aidera ensuite pour toute votre vie spirituelle. D'ailleurs, parfois, ça peut étonner des pénitents. Alors, comme conseil, je vous donnerai de vous coucher tout à l'heure. Ah non, mais moi, je veux un conseil, mais spirituel. Ben oui, mais c'est ce qui va vous aider. Parce qu'en fait, dans votre vie spirituelle, c'est ça qui vous gêne. Parce que vous vous couchez trop tard, donc vous vous levez trop tard, ou vous vous levez à l'heure et vous marchez au radar. Mais dans tous les cas, c'est à peu près la même chose. Et donc, du coup, ben, vous avez une vie, vous êtes toujours en train d'essayer de rattraper le retard. Et en fait, le problème vient de là, vous voyez. Ou alors, si vous confessez, j'ai donné des coups, alors est-ce que c'est à ma petite sœur, est-ce que c'est à ma grande sœur, ou est-ce que c'est à ma mère? Donc, vous voyez qu'il y a aussi des différences. Enfin, bon, je pense que vous avez compris. Donc, la question des circonstances du péché donc, peuvent aider à progresser sur la question des péchés. Et puis après, donc, il faut aussi donc, bien faire sa pénitence. Et il peut être bon, c'est le conseil en tout cas que je donne aux enfants, d'avoir toujours une résolution en tête en sortant de chaque confession. Donc il peut être même la même, pour certaines personnes ce sera la même toute une année, ou plusieurs années. Et pour d'autres, après, ils peuvent aussi parfois changer. Mais c'est très bien en tout cas d'avoir toujours une résolution concrète parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Oui. Alors, voulant aider un petit enfant qui se confessait il n'y a pas très longtemps, il avait peut-être 6-7 ans, il était tout enfant. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu veux prendre comme résolution? Est-ce que c'est moins te disputer? Est-ce que c'est d'aider maman? Est-ce que c'est donc de mieux obéir? Et alors, je lui pose la question. Il dit, moi, ma résolution, c'est de plus faire de péché, qu'il me dit. C'est très bien, mon garçon. Bon, ça partait d'un bon sentiment, mais... Quand il sera plus grand, on lui expliquera après, peut-être plus tard. Mais il m'a sorti ça d'une manière tellement... Il dit, moi... Allez, comment ça? Moi, ma résolution, c'est de plus faire de péché. Bon, mais bon courage, mon enfant. Ben, il avait certainement compris que le péché, c'était pas bien, donc il voulait plus faire de péché. Et puis enfin, quand vous avez des difficultés pour vous confesser, donc pensez aussi à vous tourner vers la Sainte Vierge, donc pour qu'elle vous aide à avoir une bonne contrition et ensuite à faire aussi une bonne confession sans crispation, sans tension. Et puis n'oubliez pas de remercier aussi après vos confessions, c'est important. Notre Seigneur aime bien les âmes reconnaissantes, donc pour ainsi repartir après d'un bon pied. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, cher Monsieur l'Abbé, chers frères, chères retraitantes. Ce n'est pas sans émotion que nous assistons ce matin à l'une des premières messes de M. l'abbé Boissonnet qui a été ordonné prêtre le 29 juin dernier. Je suis très heureux, cher M. l'abbé, de vous voir monter à l'autel aujourd'hui après
vous avoir accueilli ici au séminaire il y a maintenant déjà bientôt 8 ans. C'est une grande joie également pour votre famille d'être aujourd'hui à vos côtés, et notamment pour frère Erwan Marie, qui est votre frère de sang et qui est novice ici au séminaire, tandis que son frère jumeau est, lui, à Bélègue. Toutes les retraitantes s'associent à votre joie et votre action de grâce et sont, j'en suis sûr, très heureuses d'assister à votre messe. Durant les moments qui suivent une ordination sacerdotale, il y a en effet une grâce particulière qui passe. Le bon Dieu, au moment d'une ordination, au moment d'une première messe, nous paraît tout à coup plus proche. Notre Seigneur, ayant une intimité particulière avec chacun de ses prêtres, communique une grâce spéciale à tous ceux qui s'associent avec un esprit de foi à cet événement qu'est une nouvelle ordination sacerdotale. Et notre joie aujourd'hui est un petit peu comparable à celle que l'on éprouve aussi lorsque l'on assiste à un mariage de deux jeunes profondément catholiques qui bâtissent leur foyer sur un fondement solide. Et ce qui explique cette émotion qui nous habite aujourd'hui, c'est de voir comment le bon Dieu livre en des mains si frêles, si fragiles, de tels pouvoirs, des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Comme l'évoquait Mgr Follet le jour de votre ordination, le prêtre est tout et le prêtre n'est rien. Le prêtre n'est rien par lui-même. Le prêtre n'est qu'une simple créature bien fragile. Déjà le psalmiste le reconnaissait. « Qu'est-ce que l'homme ? » disait-il, « pour que vous vous souveniez de lui. » Déjà un ange n'est rien par rapport à Dieu, tout en étant pur esprit. Mais l'homme, lui, est un esprit uni à la matière. L'homme a en lui quelque chose de l'ange, c'est vrai, son esprit, son intelligence, sa volonté. Mais il a aussi quelque chose de l'animal, son corps, ses passions, ses instincts. L'homme est donc un esprit prisonnier en quelque sorte dans la matière. Ainsi le prêtre, n'étant qu'un simple homme, n'est rien. Et non seulement le prêtre est un homme, mais hélas, il est pécheur. Lorsque j'étais séminariste, je faisais du catéchisme aux enfants à Monté, près des Cônes. Et un jour, un des enfants à qui je faisais le catéchisme me suis aperçu qu'il croyait que les prêtres naissaient sans la tâche du péché originel. Et on voit par là la haute idée que cet enfant se faisait du prêtre, mais hélas, il n'en est rien. Et saint Paul, dans son épître aux Hébreux, explique pourquoi le bon Dieu veut confier le sacerdoce à des hommes pécheurs. Il dit dans son épître que le prêtre est capable de traiter avec indulgence les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même revêtu de faiblesse, et qu'il doit, à cause de cela, offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Tout à l'heure, dans un instant, monsieur l'abbé, vous allez donc à l'offertoire élever l'hostie, et en ce moment-là, dans cette prière de l'offertoire, vous demanderez d'abord pardon pour vos propres péchés, avant de demander pardon pour les péchés du peuple. Ainsi, le prêtre n'est qu'un homme et un homme pécheur. Par ailleurs aussi, ce qui nous touche à la première messe d'un prêtre, c'est que, sauf exception, ce n'est pas à des cheveux blancs que le bon Dieu confie son sacerdoce, mais à des personnes encore bien jeunes, des personnes qui n'ont pas encore une longue expérience de la vie, même si le séminariste mûrit tout au long de ses années de séminaire. Ainsi, en considérant le jeune prêtre fraîchement ordonné sous son aspect humain, on voit en lui un homme encore bien jeune et hélas pécheur, et sauf exception, sans grande expérience de la vie. Ainsi, le prêtre n'est rien, par lui-même. Mais le prêtre est tout. Le prêtre est tout en ce sens que c'est à lui que notre Seigneur remet tout pouvoir. Le prêtre a le pouvoir merveilleux d'élever une âme à l'ordre surnaturel par le baptême. Le prêtre a le pouvoir incroyable de faire descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel. Il a le pouvoir extraordinaire de remettre les péchés les plus abominables si le pénitent les regrette sincèrement. Ainsi, le prêtre est tout. Et cela est si vrai que le curé d'Ars a pu dire « Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. » Toutes les bénédictions, toutes les grâces qui viennent du ciel viennent sur la terre par les mains du prêtre. Oh, que le prêtre est grand! C'est encore le curé d'Ars qui disait « Le prêtre ne se comprendra qu'au ciel. » Alors, puisque le prêtre est tout et que le prêtre n'est rien, notre désir le plus ardent, cher monsieur l'abbé, c'est que vous soyez toute votre vie un instrument docile entre les mains du bon Dieu. Le prêtre n'étant rien par lui-même, ne peut par lui-même rien produire de bon. S'il se détache de la source de tout bien qu'est Dieu lui-même, notre Seigneur nous l'a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le sarment ne peut pas produire de fruits s'il ne reste uni au cep. Et c'est pourquoi, pour être à la hauteur de sa sublime vocation, le prêtre doit être un homme de Dieu. Et lorsque le prêtre cherche à vivre saintement son sacerdoce, eh bien il connaît alors des joies incomparables, mais aussi des souffrances tout à fait personnelles, tout à fait particulières. L'une des plus grandes joies du prêtre est de louer Dieu. Chaque messe célébrée saintement, chaque heure du bréviaire lue avec dévotion, chaque oraison, chaque cœur à cœur avec notre Seigneur sont autant de moments privilégiés pour le prêtre fervent. Et si le prêtre aime à entretenir ce cœur à cœur, cette union intime avec notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans la prière liturgique et la prière privée, il aime aussi donner Dieu aux âmes. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui-même, il est prêtre pour les âmes, il est prêtre au service des âmes. Quel bonheur alors pour le prêtre, comme le disait Monseigneur Lefebvre, de donner la Sainte Communion. Quel bonheur de nourrir par la prédication les âmes bien disposées. Quelle joie pour le prêtre de voir les âmes monter vers Dieu. Joie de voir le zèle des convertis, joie de voir les âmes généreuses, fidèles à la grâce, joie d'accueillir les âmes touchées par la grâce, joie de soutenir aussi les âmes dans leurs difficultés. Et le prêtre est également témoin d'âmes ferventes, d'âmes saintes, qui poursuivent dans leur vie la passion même de notre Seigneur Jésus-Christ, en unissant saintement leurs souffrances à celles du divin Maître. Voilà encore ce dont le prêtre est témoin. Ainsi, le sacerdoce est source de joie incomparable pour le prêtre fervent. Et si le sacerdoce a ses joies propres, il a aussi ses peines particulières. La grande douleur du prêtre, la grande souffrance du prêtre est d'être témoin direct du mystère d'iniquité. Comme la grande souffrance de notre Seigneur a eu pour objet le péché, la grande souffrance du prêtre a également pour objet toutes les résistances à la grâce, toutes les marques d'indifférence, de mépris de l'homme moderne vis-à-vis de la religion. Le fait de voir tant d'âmes prendre le chemin de l'enfer est pour le prêtre source de grande souffrance. Et ce qui aujourd'hui frappe peut-être davantage, peut nous frapper davantage, c'est de voir que l'air ambiant que nous respirons dès que nous quittons l'environnement de nos maisons, de nos chapelles, de nos écoles, de nos familles, cet air est aux antipodes de celui que l'on respire dans un univers catholique. Alors que le bon Dieu est à l'origine de l'univers entier, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il est dans la vie courante le grand oublié. Sans parler des provocations anticatholiques, une ambiance laïciste, hédoniste, indifférentiste envahit toute la société actuelle. Et dans ce milieu, beaucoup d'âmes sont comme chloroformées, prises à la fois par le rythme de vie trépidante que nous connaissons aujourd'hui, et en même temps aussi parfois subjuguées par cette espèce de paradis artificiel qui souvent, malheureusement, dégénère bien vite en enfer. Puisse, cher monsieur l'abbé, en tout cas, votre soutane être un témoignage de l'existence de Dieu et de l'amour de Dieu pour nous. Et afin que cela puisse aider les âmes qui vous verront, les âmes de bonne volonté, paix aux âmes de bonne volonté, à se rapprocher de Dieu. Et parmi les autres souffrances du prêtre, il y a également les souffrances de nos chers fidèles. Saint Paul disait « Qui est faible sans que je sois faible ?» Ainsi le prêtre a ses joies particulières, mais aussi ses souffrances particulières. Et c'est donc dans ce contexte du monde actuel que le bon Dieu vous a appelé, cher monsieur l'abbé, pour répandre à profusion les grâces du bon Dieu et freiner, autant qu'il sera possible, avec la grâce de Dieu, l'extension du mystère d'iniquité, fruit de l'action du démon. Et ce qui sera pour vous certainement très encourageant, ce sera de voir, durant votre ministère, des âmes arrachées des griffes du diable et qui prendront résolument le chemin de la vertu, le chemin du ciel. Et ceci, quel que soit leur âge, quel que soit leur passé, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur environnement. Oui, le prêtre, on peut dire, est aux premières loges pour voir l'extension du royaume de la grâce. Et il comprend alors mieux que quiconque la réflexion de notre Seigneur qui disait qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Et puis enfin, alors, s'il fallait terminer par un souhait, je ne pourrais en formuler d'autres que ceux émis par le pontife le jour de votre ordination, au moment même de la préface consécrative qui faisait de vous un prêtre pour l'éternité. Renouvelez en votre serviteur ici présent l'esprit de sainteté, afin qu'il possède reçu de vous, ô Dieu, cette charge de second rang, et que l'exemple de sa vie amène la réforme des mœurs. Que l'exemple de sa vie amène la réforme des mœurs. Qu'en vous brille toute justice, afin que lorsque vous rendrez compte de votre ministère, vous receviez la récompense de l'éternelle béatitude, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Ensuite, puisque nous sommes rentrés dans une année sacerdotale, puisque le pape a voulu faire de cette année une année du sacerdoce, je voudrais vous inviter, pour celles qui ne connaissent pas, à acquérir ou à offrir ce livre, La sainteté sacerdotale, qui n'est pas en vente dans cette salle, mais juste dans celle d'à côté. Donc j'ai essayé, avec les séminaristes, de réunir ce que Mgr Lefebvre a pu dire sur le prêtre. Donc maintenant vous connaissez mieux les propos de Mgr Lefebvre, puisque vous les avez entendus à table. Et donc vous comprenez le désir, le souci que j'ai eu d'essayer de mettre à la portée des séminaristes toute la pensée de Mgr Lefebvre sur le sujet de la messe, donc à travers le livre « La messe de toujours » paru en 2005, et puis également donc sur le prêtre, à travers ce livre, donc « La sainteté sacerdotale » qui réunit ce que Mgr Lefebvre a dit sur le prêtre. Donc je l'ai fait d'abord pour les séminaristes. Il faut savoir que vous rentrez au séminaire à la rentrée prochaine, des premiers séminaristes nés après la mort de Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre est mort en mars 91. Il y a des séminaristes qui rentreront au séminaire, qui sont nés en avril 91. Et puis encore un peu plus tard, donc dans cette année 91. Donc bien sûr que c'est important que les séminaristes puissent avoir la pensée du fondateur de la fraternité sur le prêtre. Mais en faisant ce livre, j'avais aussi comme intention d'aider les fidèles qui prient pour les prêtres à pouvoir mieux incarner leur prière en ayant une connaissance plus profonde à la fois des joies du sacerdoce, mais aussi des difficultés rencontrées par les prêtres dans le sacerdoce. Donc ce livre aussi vous fera davantage connaître à la fois les joies du prêtre et les épreuves que les prêtres peuvent connaître dans leur ministère. Et également, je l'ai fait dans le but de permettre aux jeunes de comprendre le choix de leurs parents ou de leurs grands-parents qui ont fait le choix de la tradition. Pourquoi avoir suivi la fraternité Saint-Pidis ? Et donc, après avoir présenté ce qu'est le sacerdoce, il y a un chapitre sur la crise du sacerdoce qui aide à comprendre l'attachement de Mgr Lefebvre au sacerdoce de toujours, comme il était attaché à la messe de toujours. Et c'est ce qui explique, et c'est le dernier chapitre, sur la fraternité Saint-Pidis, qui est vraiment une œuvre d'Église. Alors, ce livre présente la vérité avant de présenter l'erreur, et ceci pour ménager aussi des personnes qui n'auraient pas nos idées et qui seraient intéressées pour connaître la pensée de la fraternité Saint-Pidis. Donc, en présentant la vérité avant l'erreur, il permet de mieux comprendre donc, les graves objections posées par la fraternité Saint-Pidis à Rome concernant le sacerdoce et concernant la messe. Donc, dans la première partie du livre, il s'agit simplement d'extraits de sermons de Mgr Lefebvre sur les différentes étapes qui conduisent le jeune séminariste jusqu'au sacerdoce, depuis la vocation, l'entrée au séminaire, la prise de soutane, la cléricature, et puis après les différents ordres, mineurs et sous-diaconat, diaconat et prêtrise. Ensuite, le deuxième livre porte sur ce qu'est le prêtre, donc le prêtre qui est vraiment représente notre Seigneur Jésus-Christ, et qui, avant tout, est un homme de Dieu. Homme de Dieu par la prière, homme de Dieu par le saint sacrifice de la messe qu'il célèbre, par son oraison et par l'office divin. Homme de Dieu encore par son union intime avec la Sainte Vierge et par les vertus qu'il pratique. Et là, en voyant les vertus pratiquées par le prêtre, vous verrez que ce sont finalement les mêmes vertus qu'il est nécessaire de pratiquer en tant que fidèle. Le prêtre doit développer en lui les vertus théologales et morales et les fidèles aussi. Et puis ensuite, après avoir parlé du prêtre homme de Dieu, le prêtre l'homme de la charité apostolique. Lorsqu'un jeune homme veut rentrer au séminaire, il rentre non seulement parce qu'il aime bien le bon Dieu, mais parce qu'il a le désir de faire aimer le bon Dieu aux âmes. Et donc, comment le prêtre exerce-t-il cette charité ? À la fois par l'enseignement, donc la foi nous vient par l'entendement. Ensuite, par la sanctification des âmes par les sacrements, le prêtre est l'homme des sacrements. Et puis ensuite, par la direction aussi spirituelle. Donc là, on retrouve les trois pouvoirs du prêtre, enseigner, sanctifier, diriger les âmes. Notre Seigneur a dit, allez enseigner toutes les nations. Il n'a pas dit, allez dialoguer avec les musulmans, avec les bouddhistes, avec les juifs, mais allez enseigner. Donc le rôle du prêtre est d'enseigner. Ensuite, après, notre Seigneur a ajouté, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc le prêtre doit non seulement enseigner, mais l'enseignement conduit ensuite au sacrement. Le but de l'enseignement est de conduire les fidèles au sacrement. Et puis après, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et donc là, c'est le rôle de direction du prêtre, qui est le pasteur qui conduit les âmes vers la vie éternelle. Voilà. Donc, celles d'entre vous qui seraient intéressées par ce livre, sachez qu'il est en vente au prix normalement de 23 euros, mais c'est aujourd'hui, il est en vente au prix de 20 euros. Donc, profitez-en. Donc, on va passer à la conférence suivante qui porte sur la passion et la croix dans la vie chrétienne.